SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Europa Voice numéro 73, sous le soleil de Melbourne. Je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Allez, premier Europa Voice de l'année 2021, sous le soleil, l'été australien, comme je disais. On ne peut pas ne pas parler dans Europa Voice de l'élection du président américain Joe Biden, élection officialisée avec la cérémonie d'investiture donc de Joe Biden. Qu'est-ce que Joe Biden peut changer pour l'Europe ?
Alors, on va prendre la question dans l'autre sens, Christophe. C'est l'Union européenne n'a même pas attendu la cérémonie d'investiture avant de se féliciter d'avoir Joe Biden comme nouvel interlocuteur. Et donc, pour l'Union européenne, l'idée, c'est vraiment de proposer à Joe Biden un nouveau pacte fondateur transatlantique. Alors, il y a deux idées, hein, quand Ursula von der Leyen ou quand Charles Michel avance ces mots le matin même de la cérémonie d'investiture. D'abord, il y a évidemment une rupture avec la présidence Trump et avec la relation Union européenne-États-Unis telle qu'on l'a connue pendant le mandat de Donald Trump. Mais il y a surtout la volonté pour l'Union européenne de faire revenir les États-Unis, quoi qu'il en coûte, en tout cas quel que soit le président, à la table des négociations, à la table de ce qu'on pourrait appeler le multilatéralisme. L'Union européenne a vraiment besoin que les États-Unis reviennent au sein des organisations internationales. Et d'ailleurs, Christophe, une des premières décisions, à la fois très symbolique mais aussi très pragmatique, ça a été le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, peut-être la première décision de politique internationale partagé par Joe Biden le jour de son investiture.
Avec le welcome back, le tweet welcome back d'Emmanuel Macron. Des annonces d'ailleurs qui avaient été préemptées quand même de la part de l'équipe de Biden. On savait à peu près les premières intentions. On savait que dès le premier jour, il allait se mettre au travail. On savait dans quelle direction ce qui allait changer très rapidement, y compris ce qui allait changer pour la relation avec l'Europe.
Oui, et c'est ça, Christophe, qui est intéressant. C'est qu'à la fois, il y a cette volonté européenne de voir revenir le partenaire américain autour de la table de négociation, mais il y a en même temps une fermeté d'Ursula von der Leyen, de la présidente de la Commission, d'asseoir ce qui avait été théorisé par les dirigeants européens à la fin de l'année 2020, à savoir l'autonomie stratégique. Ça a été un pacte fondateur, Christophe, qui avait été avalisé par les 27, donc les 28 moins le Royaume-Uni fin 2020. C'est en fait 4 ou 5 grands dossiers sur lesquels l'Union européenne veut montrer qu'ils avancent ou qu'elle avance unie. C'est à la fois la lutte contre le changement climatique, le renforcement de la coopération multilatérale, le combat évidemment contre la Covid-19, contre la pandémie, bien sûr la reconstruction des économies, du commerce, et en dernier lieu, tout ce qui a trait à la transformation, à l'accélération numérique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la manière dont les Européens ont communiqué au moment de l'investiture de Joe Biden, il y a à la fois cette volonté de voir le partenaire américain revenir autour de la table, mais aussi de lui dire, voilà, maintenant, l'Europe est plus unie qu'avant. C'est vrai, pendant la mandature de von der Leyen, on l'a vu, hein, les Européens ont su, et notamment au moment de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, réagir ensemble, construire quelque chose ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, et on en parlera dans cette deuxième partie d'Europa Voice, notamment autour du passeport vaccinal. Mais en tout cas, il y a aussi cette volonté, en même temps que d'accueillir le partenaire américain, de montrer qu'aujourd'hui, l'Union européenne des 27, débarrassée du fardeau du Brexit, a cette volonté d'avancer comme un seul homme, face ou avec le partenaire américain.
Alors, vous mentionnez le Brexit, c'est aussi intéressant de voir les réactions de quelqu'un comme Boris Johnson, qui est, bon, il s'est félicité de l'arrivée de Joe Biden assez ouvertement. Pourtant, il n'était pas vraiment un des plus grands critiques de Donald Trump. Il l'avait reçu en Grande-Bretagne. Donald Trump avait l'air d'être un allié des Britanniques. Mais là, Joe Biden l'est également. Est-ce que c'est justement ce qui démarque un peu les Européens et les Britanniques? C'est que les Britanniques sont un peu les amis avec tout le monde, surtout quand on est américain.
Ce qui va changer là, Christophe, pour les Britanniques, c'est évidemment que maintenant ils sont exclus de cette unité, hein, de ce pacte fondateur européen. Donc ils doivent négocier des traités bilatéraux, nouer des relations diplomatiques, j'allais dire pays par pays, entité par entité. Et donc, effectivement, on sait que Boris Johnson et Donald Trump avaient développé une certaine proximité, mais Boris Johnson va devoir aussi travailler avec Joe Biden. Ce qui est vrai aussi, Christophe, c'est que Joe Biden, il va de toute façon aussi moins se tourner vers ce qu'on pourrait appeler la vieille Europe, même s'il y a une volonté que ça redevienne un allié, un partenaire, que les États-Unis reviennent dans le jeu multilatéral. Mais on sait aussi que Joe Biden, il va se tourner vers des économies comme le Japon, comme l'Inde, comme l'Australie, voilà, vers ces nouveaux marchés-là. Donc pour les Britanniques, c'est peut-être d'être considéré comme une entité en dehors de l'Union européenne, à être prise en compte par Joe Biden sur l'ensemble des dossiers internationaux.
Le fameux Singapour européen, c'est ce que les Britanniques voudraient avoir. Après, il ne faut pas vraiment se voiler la face. Joe Biden va sûrement changer, enfin Joe Biden et son équipe, hein, Kamala Harris et toute son équipe vont changer les choses. Joe Biden, par contre, ça reste un président américain avec des intérêts américains qui ne sont pas forcément liés ou alignés 100% avec la politique européenne, loin de là.
Alors, je crois que c'est très important ce que vous dites, Christophe. C'est évidemment, il va y avoir dans l'attitude de Joe Biden quelque chose de plus constructif par rapport à ses alliés. En d'autres termes, il y aura une volonté bien moindre de faire cavalier seul, comme ça avait pu être le cas de Donald Trump à l'époque. Mais vous l'avez dit, Joe Biden, il reste un président américain. Et même si la relation, elle va être plus constructive, on sait déjà qu'il va y avoir quelques dossiers extrêmement... tendu, ou en tout cas des dossiers sur lesquels il va falloir qu'il y ait des accords trouvés entre les Européens et les Américains. On peut en citer quelques-uns de ces dossiers brûlants. Il y a d'abord tout simplement au niveau industriel, il va toujours y avoir des rivalités, si je prends l'exemple de l'aéronautique, hein, entre les mastodontes Boeing et Airbus. Voilà, c'est pas une rivalité industrielle, commerciale qui va s'éteindre du jour au lendemain. Il y a la question aussi des GAFA, de la taxation du numérique. Si on résume, en fait, la plupart des GAFA, les GAFA sont des acteurs, sont des géants américains, et c'est sur le territoire européen qu'ils ne payent pas d'impôts. Donc ça aussi, c'est des dossiers sur lesquels Joe Biden et ses alliés européens vont devoir s'entendre. Donc effectivement, il y a une volonté avouée, hein, assumée. Et d'ailleurs, le mot unité, il a été repris beaucoup de fois par Joe Biden lors de son discours d'investiture. Il y a cette volonté d'unité à la fois nationale, hein, sur le sol américain, sur la scène domestique, mais il y a aussi cette volonté de faire preuve de plus d'unité avec ses alliés. Mais il y a toujours des dossiers sur lesquels il va falloir se remettre à la table des négociations et trouver des accords. Et puis aussi, on sait donc qu'il y a cette volonté des Américains de revenir au sein des institutions multilatérales, l'OMS, pardon, l'Organisation mondiale de la santé, l'accord de Paris, l'OTAN. Hein, on avait vu, hein, sous la présidence de Donald Trump, que ce qu'on appelle le burden sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau des dépenses militaires, était critiqué par Donald Trump. En gros, les États-Unis, ils trouvaient Donald Trump que les États-Unis mettaient beaucoup trop la main à la pâte par rapport à ce qu'ils recevaient de cette collectivisation de la défense. Bon, les États-Unis sont aussi attendus au sein de l'OTAN, mais par contre, par exemple, sur la question du nucléaire iranien, là, on sait que ça va être beaucoup plus difficile que les États-Unis reviennent à la table des négociations, notamment au vu des différents enrichissements en uranium qu'il y a eu ces dernières années en Iran. Donc effectivement, tout n'est pas acté. C'est un work in progress entre les États-Unis et leurs alliés.
Il y a la question de la Corée du Nord aussi, où Donald Trump avait quand même lié quand même certains ponts, certains liens avec les autorités de la Corée du Nord. Est-ce que ça va pouvoir durer ou pas? C'est une des questions aussi qui reste en suspens.
Corée du Nord, Christophe, et même Chine, hein, si on prend juste en miroir l'Union européenne, on sait qu'il y a des accords et des rapprochements qui ont eu lieu entre l'Union européenne et la Chine à la fin de l'année dernière, et c'est extrêmement critiqué même au sein de l'Europe, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu ces accords, ce rapprochement en vue de l'investiture américaine pour justement faire un peu pression sur les États-Unis, mais on sait aussi que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il soit réglé avec à la fois les acteurs européens, américains et chinois sur les questions tarifaires, de commerce, etc. Donc j'allais dire, le point positif, c'est qu'on part sur des bonnes bases, on part sur une volonté politique commune, et ça, je crois que c'est un liminaire important quand les acteurs autour de la table ont un projet, ont une volonté politique commune. Maintenant, la question, c'est de savoir comment cette volonté politique, elle va pouvoir se décliner. La plus grande crainte de ce mandat Biden, c'est un petit peu le over-promise, under-deliver qu'on avait vu sous Barack Obama, où pour différentes raisons, certaines d'ailleurs plus symboliques que politiques, il y avait eu beaucoup d'attentes sur Barack Obama, et puis certaines déceptions, notamment sur la politique et la diplomatie internationale. On l'a vu, hein, Donald Trump a peut-être fait en quelques semaines avant la fin de son mandat bien plus que le président démocrate en 8 ans.
Et avant de passer purement sur la Covid-19 et le coronavirus, juste un mot sur les États-Unis et la crise là-bas au niveau du Covid-19. Comment Joe Biden peut changer les choses, et est-ce que ça peut avoir aussi un effet sur la relation avec l'Europe, parce que on sait qu'il peut y avoir une bataille sur les vaccins, par exemple. Est-ce que ça, Joe Biden peut rentrer dans cette course, la course aux vaccins, si jamais il y a besoin, ou est-ce que la politique américaine est déjà alignée sur ce qui va devoir être fait et que ça va pas forcément trop changer?
Alors le premier élément, Christophe, pour ça, c'est encore une fois, on sait que Donald Trump avait dit, hein, qu'il voulait retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, une décision qui aurait dû être effective en juillet prochain. Je dis qu'il aurait dû parce qu'on sait déjà que Joe Biden ne veut pas que les États-Unis se retirent de l'Organisation mondiale de la santé. Donc déjà ça, au moment où il y a une gestion planétaire de la pandémie, déjà ça c'est un indicateur assez positif de la volonté de Joe Biden de ne pas faire d'isolationnisme en termes de j'allais dire de gestion de la pandémie, et peut-être, ça il est trop tôt encore pour le dire, et peut-être de vaccins. L'autre point sur cette question là c'est qu'on a aussi eu il y a quelques jours l'immunologue et le conseiller à la Maison Blanche en charge de la Covid-19, Anthony Fauci, qu'on a beaucoup vu à la télévision. Lui, il a confirmé aussi que les États-Unis respecteraient leurs obligations financières vis-à-vis de l'organisation. Donc ça aussi, c'est un signal qui est quand même assez positif, que les États-Unis s'engagent à mettre la main au panier pour financer ce qui va devoir être financé en termes de vaccins, etc. Donc pour l'instant, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour vraiment dessiner les contours de la stratégie vaccinale aux États-Unis. En tout cas, il y a ces deux premiers signaux extrêmement positifs de la volonté de Joe Biden et de son équipe de faire équipe dans la lutte contre la pandémie et la Covid-19.
Allez, on va parler maintenant du coronavirus et surtout de cette question autour du passeport vaccinal. On est rentré dans une phase de vaccination un peu partout dans la planète, hein, pas encore en Australie, mais il y a quand même pas mal de pays qui vaccinent à moyenne ou grande échelle. En Europe, ça vaccine un peu partout. La question du passeport vaccinal, on l'avait vu venir avec ses gros sabots, mais on s'y était pas forcément attardé, et aujourd'hui elle se pose réellement, cette question.
Oui, alors la, peut-être pour nos auditeurs, Christophe, déjà définir ce que serait ou ce qu'est un passeport vaccinal, c'est simplement un document qui attesterait qu'une personne a bien été vaccinée contre la Covid-19 et qui permettrait, alors après c'est le cas échéant selon les pays, déjà de voyager librement à l'étranger, mais aussi de se rendre par exemple dans des lieux publics ou au restaurant ou au cinéma. Donc déjà, on, entendons-nous sur les termes, c'est de ça dont il s'agit, le passeport vaccinal. C'est pas un autre document diplomatique officiel, c'est une simple attestation, mais c'est important parce que dans le wording, forcément, ça a un impact d'appeler ça un passeport vaccinal. Donc ça c'est la question, ça c'est la question de la définition. Après, effectivement, tout s'est accéléré en début d'année. Alors du côté de la Grèce, de manière assez surprenante, hein, c'est pas forcément l'acteur duquel on attendrait le plus que cette question du passeport vaccinal elle remonte, mais en fait c'est la Grèce qui, voulant sauver sa saison touristique, avait voulu, via cette initiative du passeport vaccinal, en fait accélérer les mouvements de personnes et l'autorisation de touristes à revenir au sein de la Grèce. Et donc en fait, comme la Grèce, par l'intermédiaire de son premier ministre, avait avancé cette piste début janvier, après forcément l'Union européenne, notamment par la voix aussi d'Ursula von der Leyen, a dû se positionner. Et c'est là où on voit que on a beau parler d'unité au sein de l'Union européenne, on n'a pas encore de chemin commun sur cette question du passeport vaccinal. Vous avez en fait à l'heure actuelle quelques pays que je pourrais qualifier de qui ont besoin de cette manne touristique, qui ont été durement touchés par la Covid-19, l'Espagne, Malte ou le Portugal par exemple, qui sont plutôt alignés sur la position de la Grèce par rapport à ce passeport vaccinal. Et vous en avez d'autres, au rang desquels la France, pour différentes raisons sur lesquelles on pourrait peut-être revenir, pour l'instant ne semble pas vouloir mettre en place ce dispositif, non pas de traçage, Christophe, mais ce dispositif, cette attestation pour permettre aux personnes de voyager.
Mais est-ce que ça, justement, c'est pas, et vous l'avez dit, est-ce que c'est pas dans la lignée de tout le débat qu'il y avait eu au tout début de cette pandémie avec les applications, chaque État faisait son application, est-ce que c'est pas un peu la saison 2 justement de l'application, de dire ok, bah, y a eu une application de traçage sur pendant X nombre de mois, bon bah maintenant c'est une application de qui n'est pas forcément de traçage, mais c'est une application pour prouver ou pas qu'on a fait ces vaccins. Je sais pas moi, en vivant dans un pays comme l'Australie, on serait tenté de se dire mais où est le mal, où pourrait être le mal. Par contre, en France, on voit quand même pas mal de petits problèmes par rapport à ce passeport vaccinal. Est-ce qu'on peut en parler justement ?
Oui, Christophe. Alors, si on prend la position française, par exemple, il y a principalement trois oppositions à ce passeport vaccinal, ou en tout cas trois réticences qui ont été avancées par le gouvernement ou par les agences officielles. Alors d'abord, il y a le classique atteinte aux libertés individuelles. Effectivement, si on considère qu'il faut ce passeport vaccinal pour se déplacer, vous ne serez pas à même de vous déplacer si vous n'êtes pas en possession du document. Et donc, si vous n'êtes pas en possession du document, certains déjà considèrent que c'est une atteinte aux libertés individuelles. Sur ce point-là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, Ursula von der Leyen a une position très en même temps macronienne, parce que d'un côté, elle déconseille fortement tous les voyages non essentiels. Donc là, on n'est même pas au niveau du passeport vaccinal, mais on dit attention, ne faisons pas de voyages non essentiels en ce moment. Mais par contre, elle a réaffirmé qu'il était de la plus haute importance de continuer à faire fonctionner le marché unique. Alors ça paraît assez contradictoire, parce que à la fois, si on décourage fortement les voyages non essentiels, mais qu'on veut promouvoir le fonctionnement du marché unique, c'est un peu compliqué à envisager. Mais en tout cas, voilà, premier élément du côté français, c'est cette question des libertés individuelles. Le deuxième élément, Christophe, c'est les incertitudes qui entourent les différents vaccins à travers le monde. Parce qu'on sait que si ces vaccins empêchent le développement des symptômes de la maladie, on ne sait pas encore pour combien de temps ces vaccins protègent. Donc en fait, il y a d'une certaine façon une temporalité qui n'est encore pas assez définie de ces passeports vaccinaux, et vous imaginez bien la complexité de devoir renouveler, je prends cet exemple-là, un passeport vaccinal en fonction de l'efficacité avérée du vaccin. Et puis la dernière réticence au niveau français, c'est l'inconnu en fait qui concerne le fait que les personnes vaccinées peuvent quand même être porteuses du virus, mais de façon asymptomatique, et donc le transmettre. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous avez le droit de vous déplacer parce que vous avez votre passeport, mais vous pouvez être asymptomatique et transmettre le virus à quelqu'un ailleurs.
Mais en l'occurrence, si on parle par exemple des restaurants, si on accepte les restaurants que les gens qui ont le passeport vaccinal, ça veut dire que c'est que les gens qui ont été vaccinés. Donc du coup, ces gens-là ne peuvent pas recontracter le coronavirus parce qu'ils ont déjà été vaccinés. Ça se débat.
Pour les lieux fermés, oui, mais alors là, on va vous rétorquer effectivement la question. C'est même pas question de liberté individuelle. C'est l'opposition politique, donc il y a aussi un peu ce jeu d'exagération, mais il y a un petit peu ce deux poids deux mesures, une société à deux vitesses où après des privations de liberté pendant des mois, vous allez avoir une partie de la population. Parce que la question, c'est si votre population entière a les moyens de se faire vacciner la semaine prochaine. Alors évidemment, c'est la décision de chacun de se faire vacciner, d'avoir son passeport vaccinal. Mais on parle quand même de la France où on sait qu'il y a du retard dans la vaccination. Donc la question, c'est aussi une question de temporalité. C'est de se dire, mais peut-être qu'il y a des gens qui pourront se faire vacciner que dans 8 mois. Et donc il y a aussi une rupture d'égalité entre ceux qui se sont fait vacciner, qui peuvent avoir maintenant un passeport vaccinal, et ceux qui devront attendre parce qu'ils ne sont pas publics prioritaires, les jeunes par exemple, et donc qui eux de toute façon n'ont même pas la possibilité d'avoir ce passeport vaccinal. Juste sur ces questions-là et sur l'argument un peu plus scientifique, j'aimerais juste citer celui qu'on appelle le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, qui lui, alors, s'est dit clairement opposé au, au passeport vaccinal chez nos confrères de BFM TV. Alors, je le cite, il a dit « Je ne suis pas favorable pour des raisons d'abord scientifiques et un peu éthiques aussi. Si j'ai reçu le vaccin en février, j'ai 95% de chances d'être protégé en février, en mars, en avril probablement. Mais en mai, juin, juillet, on n'a pas encore les informations. Dans l'état des connaissances, ce passeport serait une fausse sécurité. » Donc, vous voyez, on a quand même une position très forte de celui qui est en charge de cette stratégie vaccinale. Donc imaginez-vous, déjà en France on tâtonne, hein, on se pose des questions, on a des réticences. Il y a eu aussi une sortie du secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune, hein, qui s'est dit opposé à ce passeport vaccinal. Donc on n'est encore pas prêt de trouver une position commune européenne. Alors cette question du passeport vaccinal, elle s'applique à la fois en interne, hein, c'est en France, mais vous imaginez bien qu'entre les différents pays européens c'est encore plus compliqué, parce qu'il faut harmoniser à la fois vos politiques internes et vos politiques entre États. Donc cette question du passeport vaccinal, à mon avis, elle va durer encore quelques semaines, Christophe.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Merci Internet.
Merci Christophe.